ma vie avec Hicham Benabbas Tarji. Il est gynécologue et obstétricien à Casablanca. Il est en ligne avec nous. Bonjour Hicham Benabbas Tarji.
Bonjour Sidi, merci de votre invitation.
Merci d'avoir accepté. On s'intéresse aujourd'hui à la grossesse extra-utérine. Avant de vous donner la parole, Asma, eh bien, j'invite les auditeurs à poser leurs questions sur l'application Lux Radio.
Hicham Benabbas Tarji, bonjour.
Bonjour.
Vous écrivez dans votre essai de vulgarisation médicale de la gynécologie obstétrique, vous écrivez que la grossesse extra-utérine est la hantise de tout gynéco qui cherche à l'éliminer devant toute grossesse. C'est une grande simulatrice, ça c'est vous qui le dites, hein. Expliquez-nous.
C'est moi qui le dis, c'est mes maîtres qui m'ont enseigné cela, c'est-à-dire que la GU est vraiment la hantise pour... Voilà. Pourquoi ? Parce que on a toujours peur de se tromper, de laisser évoluer une grossesse extra-utérine, parce que son évolution, ça peut être, dans les cas les plus graves, la mort, l'hémorragie, et donc, quand on est dans un coin reculé, loin de tout hôpital, loin de toute chirurgie, ça peut se terminer par la mort. Et alhamdoulilah, ça devient exceptionnel. Mais au pire, donc ça peut être l'état fonctionnel de la trompe, c'est-à-dire la trompe qui va éclater et occasionner donc des problèmes de fertilité. Et donc c'est pour ça que c'est notre hantise. Il faut la suspecter dès qu'il y a un problème, premièrement. Et deuxièmement, c'est quelque chose qui est aussi, pourquoi on l'appelle la grande simulatrice, parce que il y a les tableaux classiques de GU, on fait le diagnostic facilement, mais il y a aussi des tableaux très trompeurs, avec fièvre, avec suspicion d'avortement, en cas de fécondation in vitro et d'échec de fécondation in vitro. Il y a même des grossesses de GU qui vont évoluer jusqu'à terme et se retrouver avec un bébé dans le ventre, c'est exceptionnel. Donc c'est vraiment beaucoup de tableaux qu'on peut voir. C'est pour ça qu'on la craint tout le temps.
Donc je note juste que quand vous dites GU, c'est grossesse extra-utérine. Juste pour que tout le monde comprenne justement. On l'a compris, la grossesse extra-utérine reste, on va dire, la première cause de mortalité liée à la grossesse, surtout dans les pays industrialisés. Hein. On parle de 2% naissance environ. C'est dire l'importance du sujet. Quels sont les mécanismes qui expliquent la constitution d'une grossesse extra-utérine ? Et puis, est-ce qu'il existe des facteurs de risque comme pour d'autres anomalies ?
Tout à fait. Alors déjà, c'est quoi une grossesse extra-utérine ? C'est une grossesse, comme le nom l'indique, en dehors de l'utérus. Donc, le plus souvent, elle est au niveau de la trompe. Mais aussi, on peut la retrouver des fois au niveau de l'ovaire ou au niveau intra-utérin, mais pas dans la cavité, c'est-à-dire au niveau d'une cicatrice de l'utérus, une cicatrice de césarienne ou de fibrome. On peut la trouver aussi au niveau cervical, au niveau du col utérin. Et les trois cas que je viens de dire, cervical, dans la cicatrice ovarienne, ou même, c'est exceptionnel, ou même voir des fois dans la cavité abdominale, elle va se développer sur l'utérus, mais en dehors, et c'est exceptionnel d'avoir un bébé vivant à la fin, ça m'est déjà arrivé. Mais je veux dire, l'essentiel de la GU, c'est au niveau de la trompe. Pourquoi la GU ? Parce qu'en fait, il y a eu un retard de l'évolution de l'œuf dans son passage vers l'utérus. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais la fécondation ne se passe pas dans l'utérus. La fécondation, le spermatozoïde rencontre l'ovaire au niveau de la trompe. C'est là où se fait la fécondation. Et après, il y a un chemin, il y a un voyage de cet œuf fécondé qui commence à se diviser. Et en même temps, il circule pendant 4-5 jours pour arriver au bout du cinquième jour dans la cavité utérine où il va nicher, où il va grandir, où il y a l'espace pour se développer pendant 9 mois. Mais il y a des facteurs de...
Un passage qui se fait, tout à fait. C'est à ce moment-là où peut-être...
Allô ? Je ne vous entends plus ?
Oui.
Je vous dis exactement comme vous dites, c'est au niveau de ce passage qu'il peut y avoir des facteurs qui vont freiner ce passage, et notamment s'il y a des adhérences, s'il y a des trompes qui sont malades, je donne un exemple, par exemple, si vous avez été opéré durant votre jeunesse par une appendicite, eh ben, cet appendicite peut occasionner des adhérences, des accolements qui vont coller la trompe et donc freiner le passage. Il y a d'autres causes, notamment ce qu'on appelle des infections à chlamydia trachomatis. C'est une infection sexuellement transmissible qui est assez fréquente, qui est insidieuse, qui est asymptomatique, mais qui va entraîner des petites lésions au niveau du péritoine.
Asymptomatique chez la femme.
Chez la femme, tout à fait. Elle peut être symptomatique, mais souvent elle est asymptomatique. Mais on la découvre par la suite, on voit qu'il y a des adhérences au niveau du ventre et qui vont coller ces trompes et donc retarder le passage. Il y a d'autres facteurs, on dit par exemple le stérilet. Le stérilet et les traitements hormonaux peuvent entraîner des petites anomalies au niveau des cils de la trompe et retarder le passage. Et donc, c'est aussi des facteurs qui augmentent le risque de faire une grossesse extra-utérine. Il y a aussi
traitements hormonaux, est-ce qu'on peut considérer la pilule comme un...
Les progestatifs surtout. Mais quand je dis ça, vous savez, c'est des risques qui sont multipliés par 2, par 3. Je veux rassurer les gens. Je veux dire, tous les stérilets ne donnent pas la grossesse extra-utérine. Mais si vous voulez, le risque de grossesse extra-utérine est un peu augmenté. Le facteur, je pense qu'il est 2 fois 2. Le risque est multiplié par 2 quand on a un stérilet, quand on prend des traitements progestatifs. Il y a des progestatifs au long cours, c'est des traitements hormonaux à base de progestérone, qui vont avoir un effet sur les cils et retarder ce voyage, le fonctionnement des cils qui font vibrer et font bouger l'eau contenue dans les trompes et donc faire bouger l'œuf. Mais maintenant, il faut rassurer aussi les gens, la grossesse extra-utérine, comme vous le dites, c'est 1 à 2% des grossesses. C'est pas fréquent, mais n'empêche, avec toutes les femmes enceintes qui tombent dans le monde durant l'année, donc c'est quand même une crainte qu'on a quand une femme est enceinte de penser à la GU pour l'éliminer.
Alors, Hicham Alabastagé, je rappelle que vous êtes gynécologue-obstétricien à Casablanca. On discute ensemble de la grossesse extra-utérine. Vous écrivez aussi dans votre livre que le diagnostic n'est pas toujours évident. Pourquoi et comment se fait justement le diagnostic ?
Ben, vous savez, on ne voit pas toujours la grossesse. Normalement, quand la en fait, il y a plusieurs problèmes. Premièrement, où est cette grossesse ? Je vous dis que dans 98%, elle est au niveau de la trompe, mais la trompe, elle a un diamètre variable. Si ça se fait au niveau de l'ampoule tubaire, en fait, la partie la plus grosse de l'ampoule, elle est extensible. Et donc, si vous voulez, la grossesse, au début, eh ben, la dame va être contente, elle va avoir une aménorrhée, c'est-à-dire un retard de règles. Elle est contente, elle a des signes sympathiques de grossesse, comme vous dites, ils sont pas forcément sympathiques, mais elle va avoir des nausées, elle va avoir des vomissements, elle va dire super, je suis enceinte. Mais comme la trompe est extensible, ce n'est que vers 6, 7, 8 semaines qu'elle peut avoir des douleurs. C'est à ce moment-là que les problèmes augmentent. Pourquoi ? Parce que sa grossesse a augmenté, elle fait environ, l'œuf fait environ 1-2 cm, et c'est à ce moment-là que la trompe va commencer à faire mal, parce qu'elle ne peut plus se distendre plus que ça. Par contre,
dans ce cas-là, on a des saignements.
Oui, je parlerai tout à l'heure des signes. Mais si vous voulez, des fois, on a des grossesses qui sont au niveau de la partie... ismique de la partie intra-utérine de la trompe, et c'est très fin. Là, la trompe fait quelques micromètres de taille. Et donc, si vous voulez, une grossesse extra-utérine intra-myométriale dans la partie initiale de la trompe, elle va très vite éclater. Et vous pouvez avoir une hémorragie, un état de choc, parce que la trompe va se rompre dès 4 semaines, dès 5 semaines, des fois avant même le retard de règles. C'est un tableau d'hémorragie qu'on peut avoir comme ça. À l'extrême, on peut avoir une grossesse, une GU qu'on appelle péritonéale, c'est-à-dire que l'œuf, il peut ne pas grandir et tomber dans la cavité péritonéale et donc ne pas donner de symptômes. C'est après... au bout de 2 mois, 3 mois, qu'on va retrouver que la femme, elle est dérangée, qu'elle a des symptômes quand elle fait ses besoins, elle a une douleur qui est sourde. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de tableaux qui sont liés aussi à où est-ce que cette grossesse a niché. J'ai eu exceptionnellement un jour, je vous assure, une grossesse à terme. J'étais à l'hôpital, une grossesse à terme où on a tout fait pour essayer d'accoucher de cette dame. Well, elle n'arrivait pas à coucher. On a césarisé parce que justement, il fallait donc sortir le bébé. Et on a eu la surprise de voir que le bébé était sur l'utérus, en dehors de l'utérus. C'était une grossesse extra-utérine qui avait donné une grossesse abdominale qui avait évolué. C'était extrêmement rare, mais je vous dis, ça arrive. Et donc, c'est pour ça que les symptômes sont variables et que tous les tableaux peuvent être là. Mais ce qui est le diagnostic, en fait, c'est que grâce aux échographies précoces, quand une femme a un retard de règles, on va faire une échographie endovaginale, par la voie vaginale, parce qu'on voit mieux. Et à partir de 5-6 semaines, et surtout par rapport à un taux de bêta-ACG, un taux d'hormone particulier, un dosage sanguin, à partir de 5-6 semaines, on doit voir quelque chose en intra-utérin. Si on ne le voit pas, c'est qu'il y a un problème. Soit la grossesse est mal datée, il y a eu un retard d'ovulation, et donc la grossesse est encore jeune, et c'est pour ça qu'on ne la voit pas. Soit, si on est sûr de la date de grossesse, la grossesse n'est pas dans l'utérus. Et donc, ce qui veut dire,
Donc,
elle
quels
est
sont
en
les
dehors.
examens, on va dire, complémentaires qui devront se faire à ce moment-là?
Alors, à ce moment-là, on a deux types d'examens qu'on peut utiliser, même voire un troisième. C'est premièrement l'échographie endovaginale, parce qu'elle permet de voir est-ce qu'il y a une grossesse dans l'utérus ou pas, et aussi voir son évolution. Elle permet de voir s'il y a une anomalie en dehors de l'utérus. Au niveau des trompes, au niveau donc à côté de l'utérus, si on voit une masse, si cette masse fait mal, donc on la voit, on voit la grossesse extra-utérine donc directement ou par des signes indirects. Il y a un deuxième examen qu'on peut faire, c'est les bêta-ACG, c'est l'hormone de la grossesse, mais un dosage quantitatif, c'est-à-dire on vous dit pas il est positif ou négatif, on vous dit la valeur est de temps. Vous avez 500, vous avez 1000, vous avez X. Encore une fois, je le dis, je profite de votre émission pour le dire, la valeur n'est qu'indicative. La valeur ne date pas une grossesse. Par contre, ce qui nous importe, ce qui est important, c'est l'évolution de ce taux. Parce que dans une
D'une
grossesse,
semaine à une autre.
je dirais sur 2 jours. Parce que
D'accord, carrément.
pourquoi? Parce que une grossesse normale, le trophoblaste, enfin les cellules qui se développent et qui synthétisent cette bêta-ACG, quand elles sont normales, le taux doit doubler toutes les 48 heures. Encore une fois, ce n'est pas la valeur qui m'importe, mais si vous avez 300, je dois en voir 600 dans 2 jours. C'est important que ça soit fait dans le même labo. Mais généralement, quand j'ai 300 et 600 2 jours plus tard, c'est une bonne évolution. Et une grossesse extra-utérine, le taux de bêta-ACG n'évolue pas bien. Donc, si vous voulez, c'est cette évolution du taux qui peut me rassurer. Troisième des choses, il y a ce qu'on appelle une corrélation échographique et le taux. Normalement, quand j'ai un taux de plus de 1000, voire 1500, il faut que j'ai une. Ça corresponde aussi à un sac intra-utérin. Si j'ai. Voilà, au moins un sac en intra-utérin. Je ne peux pas avoir 1500 ou 2000 de bêta-ACG qui évoluent et rien dans l'utérus à l'échographie. Ça, c'est anormal. Alors, quand je dis anormal, je ne dis pas forcément grossesse extra-utérine. Ça peut être une fausse couche. Et qu'est-ce qui va me le dire là? Et justement, c'est l'évolution du taux. Si j'ai 1000 aujourd'hui, je suspecte quelque chose d'anormal. Je peux redemander de faire le taux dans 2 jours. Si le taux baisse, il est à 1000, il redevient à 800. C'est très probablement une fausse couche, puisque le taux baisse. D'accord? La grossesse, le taux doit doubler toutes les 48 heures. Si j'ai 2000 après 2 jours, eh ben c'est très
Tout
probablement,
va bien.
a priori, c'est que ça va bien. Maintenant, si je 2000, je passe à 1100, 1200, 1300. C'est là où je crains la grossesse extra-utérine. Alors, il y a un troisième examen qu'on pouvait faire avant, on le faisait souvent, c'était ce qu'on appelle la progestéronémie. Parce qu'une grossesse qui évolue bien, eh ben, la progestérone monte bien. Et donc, elle est supérieure à 25. Donc, c'est aussi un élément. Et dans le doute, quand on doute de quelque chose, qu'on ne voit pas bien, qu'on n'est pas sûr, on peut être, et surtout si la dame a des symptômes, elle a mal, elle a une petite douleur, elle n'est pas asymptomatique, et bien à ce moment-là, on peut être amené à faire une célioscopie diagnostique. C'est une intervention, mais qui est à minima, je dirais, on fait quelques petits trous dans le ventre. Juste, donc on opère par cœlio avec 3 petits trous, c'est pas toute la grande cicatrice, et on peut voir à ce moment-là est-ce qu'on a une GU ou pas, et on peut la traiter. Et malheureusement, oui.
C'était justement ma question, Hicham Benabastaghi. En cas de diagnostic, on va dire positif, c'est-à-dire qu'il y a grossesse extra-utérine, comment ça se passe? Est-ce qu'une intervention, on va dire, chirurgicale
est nécessaire?
obligatoire?
Pas toujours, et c'est pour ça que c'est important de diagnostiquer la GU tôt. Parce qu'une GU, on est sûr de la grossesse extra-utérine, mais le sac est très petit, les bêta-ACG sont inférieurs à 5000, et la dame ne se plaint de rien. On peut maintenant traiter médicalement la GU avec des injections d'un produit anticancéreux qui va arrêter cette grossesse. Et donc, ça nécessite une surveillance, mais on peut très bien la traiter médicalement sans avoir besoin d'opérer et juste donc faire une surveillance pour s'assurer qu'on a été bien traité et qu'on n'a pas besoin de réinjecter le produit. Maintenant, dans certains cas, je vous dis, où la grossesse est trop grosse, elle a évolué, la trompe est en danger, elle peut se rompre. Eh ben, on va faire une célioscopie où on va, donc avec une incision minime, on va pouvoir conserver la trompe, faire une incision sur la trompe, enlever le trophoblaste, enlever l'œuf, je dirais, et traiter, je dirais chirurgicalement, mais de manière conservateur. Malheureusement, quand on tarde trop ou la patiente a tardé à venir consulter, eh ben là, on peut venir dans un tableau de rupture, de la trompe, qui va faire saigner, qui a fait des douleurs. Et là, donc, on ne peut pas conserver. Et dans les cas les plus graves, elle peut faire une hémorragie. Et je vous dis, si elle est loin, je ne sais pas, à la campagne, dans la montagne, dans un lieu perdu, très loin d'une structure hospitalière, il y a eu des décès, malheureusement, parce que la dame a tardé à venir. Et alors, je parlerai aussi de la célioscopie blanche. Des fois, il arrive, et je l'ai lu récemment sur un réseau social, il arrive qu'on peut faire, dans le doute, on préfère faire, parce que la dame a mal, parce que les bêta-ACG n'évoluent pas bien, parce qu'on ne voit pas une grossesse en intra-utérin, eh ben, on peut être amené à faire une célioscopie et diagnostic, et des fois, on peut se tromper. Heureusement, c'est génial. Même s'il n'y a pas eu y a pas de grossesse extra-utérine, on a opéré, je dirais, entre guillemets, pour rien. Mais moi, je dirais au contraire, c'est bien parce que ça veut dire que la grossesse va évoluer en intra. Et donc, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que, excusez-moi juste de terminer sur quelque chose, c'est le problème, c'est que les mutuelles considèrent que c'est une opération abusive. C'est pas toujours. Des fois, dans le doute, il vaut mieux opérer. Voilà.
Alors, si j'ai bien compris, le traitement, on va dire, d'une grossesse extra-utérine est important dans le sens où il va conditionner les grossesses à suivre.
Bien sûr.
Comme vous l'aviez dit, s'il y a ablation, on va dire, des deux trompes ou bien les deux carrément, c'est impossible d'envisager une grossesse naturelle. Il faut donc s'orienter vers la FIV dont on a déjà discuté dans une précédente édition. Quelles sont les autres conséquences d'une
Alors,
première grossesse extra-utérine?
je dirais juste quelque chose. On a deux trompes. Quand la GU survient sur une trompe, on peut essayer de la conserver. Si elle n'est pas conservable parce qu'elle est altérée, par exemple, si on a des lésions, des adhérences, des signes de chlamydia, généralement ça touche les deux trompes, mais généralement on va enlever que la trompe malade. On ne peut pas enlever les deux trompes d'un coup, parce que comme vous dites, ça obligerait à la FIV. Mais si l'autre trompe est normale, on peut très bien retomber enceinte avec une seule trompe. C'est vraiment un message qui est important. Avec une trompe, mesdames, vous pouvez tout à fait tomber enceinte. Donc, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. L'essentiel, c'est premièrement d'éviter les infections et de les traiter. Traiter les infections à chlamydia pour éviter d'avoir des lésions au niveau de ces trompes. Et je dirais, le message essentiel, c'est de consulter tôt quand vous êtes enceinte, dès que vous avez le retard. Dès que vous avez une semaine, 10 jours de retard, il faudrait aller consulter juste pour s'assurer que cette grossesse évolue bien. Elle évolue bien en intra-utérin. Les autres conséquences, il n'y a pas vraiment de conséquences d'une grossesse extra-utérine. Peut-être, je dirais, si on vous a fait un traitement conservateur, c'est encore très important, dès que vous avez le retard, d'aller consulter, parce que bien sûr, il peut y avoir une récidive de la GU, surtout sur la même trompe. Et à ce moment-là, quand on a fait deux GU sur la même trompe, c'est une indication à enlever cette trompe malade. Maintenant, comme vous dites, mais en péropératoire, il est très rare qu'on va dire On enlève les deux trompes parce qu'elles sont pathologiques, parce qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de sacrifier le pronostic de fertilité de la dame et l'obliger à une fécondation in vitro. Mais je dirais donc, voilà, on s'adapte à l'état qu'on trouve. D'accord?
D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Hicham Belabastagé, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à Casablanca. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Inch'Allah.
Et là, sachez que vous pouvez retrouver cette interview dans son intégralité en podcast sur l'application Lux Radio. Heure essentielle.
Au revoir.
Tout de suite, la revue de presse.
Merci, monsieur.